Chapitre 7 Oreste et Pylade. Henri d'Anjou parti, on eût dit que la paix et le bonheur étaient revenus s'asseoir dans le Louvre au foyer de cette famille d'Atrides. Charles, oubliant sa mélancolie, reprenait sa vigoureuse santé, chassant avec Henri et parlant de chasse avec lui les jours où il ne pouvait chasser. Catherine était redevenue bonne mère, douce à Charles et à d'Alençon, caressante à Henri et à Marguerite, gracieuse à Madame de Nevers et à Madame de Sauve. Et sous prétexte que c'était en accomplissant un ordre d'elle qu'il avait été blessé, elle avait poussé la bonté d'âme jusqu'à aller voir deux fois Maurevel convalescent dans sa maison de la rue de la Cerisaie. Marguerite continuait ses amours à l'espagnol. Tous les soirs, elle ouvrait sa fenêtre et correspondait avec la Mole par geste et par écrit, et dans chacune de ses lettres, le jeune homme rappelait à sa belle reine qu'elle lui avait promis quelques instants en récompense de son exil rue Cloche-Percée. Une seule personne au monde était seule et dépareillée dans le Louvre, redevenu si calme et si paisible. Cette personne, c'était notre ami, le comte Annibal de Coconas. Certes, c'était quelque chose que de savoir la Mole vivant. C'était beaucoup que d'être toujours le préféré de Madame de Nevers, la plus rieuse, la plus fantasque de toutes les femmes. Mais tout le bonheur de ce tête-à-tête que la belle duchesse lui accordait, tout le repos d'esprit donné par Marguerite à Coconas sur le sort de leur ami commun ne valait point aux yeux du Piémontais une heure passée avec la Mole chez l'ami la Hurière devant un pot de vin doux ou bien une de ces courses dévergondées faites dans tous ces endroits de Paris où un honnête gentilhomme pourrait attraper des accrocs à sa peau, à sa bourse ou à son habit. Madame de Nevers, il faut l'avouer, à la honte de l'humanité, supportait impatiemment cette rivalité de la Mole. Ce n'était point qu'elle détestât le Provençal, au contraire, entraînée par cet instinct irrésistible qui porte toute femme à être coquette malgré elle avec l'amant d'une autre femme, surtout quand cette femme est son amie, elle n'avait point épargné à la Mole les éclairs de ses yeux d'émeraude, et Coconas eût pu envier les franches poignées de main et les frais d'amabilité faits par la duchesse en faveur de son amie pendant ses jours de caprice, où l'astre du Piémontais semblait pâlir dans le ciel de sa belle maîtresse. Mais Coconas, qui eût égorgé 15 personnes pour un seul clin d'œil de sa dame, était si peu jaloux de la Mole qu'il lui avait souvent fait à l'oreille, à la suite de ces inconséquences de la duchesse, certaines offres qui avaient fait rougir le Provençal. Il résulte de cet état de choses que Henriette, que l'absence de la Mole privait de tous les avantages que lui procurait la compagnie de Coconas, c'est-à-dire de son intarissable gaieté et de ses insatiables caprices de plaisir, vint un jour trouver Marguerite pour la supplier de lui rendre ce tiers obligé sans lequel l'esprit et le cœur de Coconas allaient s'évaporant de jour en jour. Marguerite, toujours compatissante et d'ailleurs pressée par les prières de la Mole et les désirs de son propre cœur, donna rendez-vous pour le lendemain à Henriette dans la maison aux deux portes afin d'y traiter à fond ses matières dans une conversation que personne ne pourrait interrompre. Coconas reçut d'assez mauvaise grâce le billet d'Henriette qui le convoquait rue Tison pour 9h30. Il ne s'en achemina pas moins vers le lieu du rendez-vous, où il trouva Henriette déjà courroucée d'être arrivée la première. « Fille, monsieur, dit-elle, que c'est mal appris de faire attendre ainsi, je ne dirais pas une princesse, mais une femme. » « Oh, attendre, dit Coconas, voilà bien un mot de vous, par exemple. Je parie au contraire que nous sommes en avance. »« Moi, oui. Bah, moi aussi, il est tout au plus 10 heures, je parie. » « Eh bien, mon billet portait 9h30. Aussi étais-je parti du Louvre à 9h, car je suis de service près de monsieur le duc d'Alençon, soit dit en passant, ce qui fait que je serai votre obligé de vous quitter dans 1 heure. Ce qui vous enchante. Ah non, ma foi, attendu que monsieur d'Alençon est un maître fort maussade et fort quinteux, et que pour être querellé, j'aime encore mieux l'être par de jolies lèvres comme les vôtres que par une bouche de travers comme la sienne. » « Allons, dit la duchesse, voilà qui est un peu mieux cependant. Vous disiez que vous étiez sorti à 9h du Louvre. Eh oui, mon Dieu, oui, dans l'intention de venir droit ici, quand, au coin de la rue de Grenelle, j'aperçois un homme qui ressemble à la Mole. »« Bon, encore la Mole. Eh, toujours, avec ou sans permission. Oh, vous êtes assommant, mon cher. Mais continuez. Enfin, de la rue de Grenelle, vous apercevez un homme qui ressemble à la mole. Mais qu'avez-vous donc à votre pourpoint, du sang? Bon, en voilà encore un qui m'aura éclaboussé en tombant. Vous êtes battu? Eh, je le crois bien. Pour votre la mole? Eh, pour qui voulez-vous que je me batte? Pour une femme? Merci. Je le suis donc, cet homme qui avait l'imprudence d'emprunter les airs de mon ami. Je le rejoins à la rue Coquillère, je le devance, je le regarde sous le nez, et à la lueur d'une boutique, mais ce n'était pas lui. Bon, c'était bien fait. Oui, mais mal lui en a pris, monsieur, lui ai-je dit. Vous êtes un fat de vous permettre de ressembler de loin à mon ami monsieur de la Mole, lequel est un cavalier accompli, tandis que, de si près, on voit bien que vous n'êtes qu'un truand. Sur ce, il a mis l'épée à la main, et moi aussi, à la troisième passe, voyez, les mal appris, il est tombé en m'éclaboussant. Et lui avez-vous porté secours, au moins? Eh, j'allais le faire quand est passé un cavalier. Ah, cette fois, duchesse, je suis sûr que c'était la mole. Malheureusement, le cheval courait au galop. Je me suis mis à courir après le cheval, et les gens qui s'étaient rassemblés pour me voir à courir derrière moi. Or, comme on ne put me prendre pour un voleur, suivi que j'étais par toute cette canaille qui hurlait après mes choses, j'ai été obligé de me retourner pour la mettre en fuite, ce qui m'a fait perdre un certain temps. Pendant ce temps, le cavalier avait disparu, mais je me suis mis à sa poursuite, je me suis informé, j'ai demandé, donné la couleur du cheval, mais baste, inutile, personne ne l'avait remarqué. Enfin, de guerre lasse, je suis venu ici. De guerre lasse, dit la duchesse, ah, comme c'est obligeant. Écoutez, cher ami, dit Coconas en se renversant nonchalamment dans un fauteuil, vous m'allez encore persécuter à l'endroit de ce pauvre la mole. Eh bien, vous avez tort, car, enfin, l'amitié, voyez-vous, je voudrais avoir son esprit ou sa science à ce pauvre ami. Je trouverai quelque comparaison qui vous ferait palper ma pensée. L'amitié, voyez-vous, c'est une étoile. Tandis que l'amour, eh bien, je la tiens, la comparaison, l'amour n'est qu'une bougie. Vous me diriez qu'il y a plusieurs espèces d'amour? Non, de bougies, et que dans ces espèces, il y en a des préférables. La rose, par exemple, va pour la rose, c'est la meilleure. Mais toute rose qu'elle est, la bougie s'use, tandis que l'étoile brille toujours. À cela, vous me répondrez que quand la bougie est usée, on en met une autre dans le flambeau. Monsieur de Coconas, vous êtes un fat. Là, messieurs de Coconas, vous êtes un impertinent. Là, là, monsieur de Coconas, vous êtes un drôle. Eh, madame, je vous préviens que vous allez me faire regretter trois fois plus la mole. Vous ne m'aimez plus. Au contraire, duchesse, vous ne vous y connaissez pas, je vous idolâtre. Mais je puis vous aimer, vous chérir, vous idolâtrer, et dans mes moments perdus, faire l'éloge de mon ami. Vous appelez vos moments perdus ceux que vous passez auprès de moi, alors. Et que voulez-vous, ce pauvre la mole, il est sans cesse présent à ma pensée. Ah, vous me le préférez, c'est indigne. Henriette, la plus belle des duchesses, je vous aime plus que toutes les femmes, mais j'aime la mole plus que tous les hommes. Eh bien répondu, dit soudain une voix étrangère, et une tapisserie de damas, soulevée devant un grand panneau qui, en glissant dans l'épaisseur de la muraille, ouvrait une communication entre les deux appartements, laissa voir la mole pris dans le cadre de cette porte comme un beau portrait du Titien dans sa bordure dorée. « La mole !» cria Coconas sans faire attention à Marguerite et sans se donner le temps de la remercier de la surprise qu'elle lui avait ménagée. « La mole, mon ami, mon cher la mole !» Et il s'élança dans les bras de son ami, renversant le fauteuil sur lequel il était assis et la table qui se trouvait sur son chemin. La mole lui rendit avec effusion ses accolades, mais tout en les lui rendant, « Pardonnez-moi, madame, dit-il en s'adressant à la duchesse de Nevers, si mon nom prononcé entre vous a pu quelquefois troubler votre charmant ménage. » « Tu vois, dit à son tour Marguerite, tu vois, Henriette, que j'ai tenu parole, le voici. » Est-ce donc aux seules prières de madame la duchesse que je dois ce bonheur? Demanda la mole. « À ses seules prières, répondit Marguerite. » Puis, se tournant vers la mole, « La mole, continua-t-elle, je vous permets de ne pas croire un mot de ce que je dis. » Pendant ce temps, Coconas, qui avait 10 fois serré son ami contre son cœur, qui avait tourné 20 fois autour de lui, qui avait approché un candélabre de son visage pour le regarder tout à son aise, alla s'agenouiller devant Marguerite et baisa le bas de sa robe. « Ah, c'est heureux, dit la duchesse de Nevers, vous allez me trouver supportable à présent. » « Eh, mordi, s'écria Coconas, je vais vous trouver, comme toujours, adorable. Seulement, je vous le dirai de meilleur cœur, et puissais-je avoir là une 30aine de Polonais, de Sarmates et autres barbares hyperboréens pour leur faire confesser que vous êtes la reine des belles ?»« Eh, doucement, doucement, Coconas, dit la mole. Et madame Marguerite, donc ?» « Ah, je demande 10 pas !» s'écria Coconas avec son accent demi-bouffon qui n'appartenait qu'à lui. « Madame Henriette est la reine des belles et Madame Marguerite est la belle des reines. » Mais, quoi qu'il pût dire ou faire, le pied montait tout entier au bonheur d'avoir retrouvé son cher Lamolle, n'avait Dieu que pour lui. « Allons, allons, ma belle reine, dit madame de Nevers, venez, laissons ces parfaits amis causer une heure ensemble. Ils ont 1000 choses à se dire qui viendraient se mettre en travers de notre conversation. C'est dur pour nous, mais c'est le seul remède qui puisse, je vous en préviens, rendre l'entière santé à monsieur Hannibal. Faites donc cela pour moi, ma reine, puisque j'ai la sottise d'aimer cette vilaine tête-là, comme dit son ami la mole. » Marguerite glissa quelques mots à l'oreille de la mole, qui, si désireux qu'il fût de revoir son ami, aurait bien voulu que la tendresse de Coconas fût moins exigeante. Pendant ce temps, Coconas essayait, à force de protestations, de ramener un franc sourire et une douce parole sur les lèvres d'Henriette, résultat auquel il arriva facilement. Alors les deux femmes passèrent dans la chambre à côté, où les attendait le souper. Les deux amis demeurèrent seuls. Les premiers détails, on comprend bien, que demanda Coconas à son ami, furent ceux de la fatale soirée qui avait failli lui coûter la vie. À mesure que la mole avançait dans sa narration, le piémontais, qui, sur ce point cependant, on le sait, n'était pas facile à émouvoir, frissonnait de tous ses membres. « Et pourquoi, lui demanda-t-il, au lieu de courir les champs comme tu as fait et de me donner les inquiétudes que tu m'as données, pourquoi ne t'es-tu pas réfugié auprès de notre maître? Le duc qui t'avait défendu t'aurait caché, j'eusse vécu près de toi, et ma tristesse, quoique feinte, n'en eût pas moins abusé les niais de la cour. « Notre maître, dit la mole à voix basse, le duc d'Alençon. » « Eh oui, d'après ce que tu m'as dit, j'ai dû croire que c'est à lui que tu dois la vie. »« Je dois la vie au roi de Navarre, » répondit la mole. « Oh, » fit Coconas, « en es-tu sûr ?»« À n'en point douter. »« Oh, les bons, l'excellent roi, mais le duc d'Alençon, que faisait-il, lui, dans tout cela ?» Il tenait la corde pour m'étrangler. « Mordi !» s'écria Coconas. « Es-tu sûr de ce que tu dis, la mole ? Comment ? C'est pas le prince, ce roquet, ce piteux, étrangler mon ami, hein, mordi ! Dès demain, je vais lui dire ce que je pense de cette action. Es-tu fou ? Eh, c'est vrai, il recommencerait, mais n'importe, cela ne se passera point ainsi. » « Allons, allons, Coconas, calme-toi et tâche de ne pas oublier qu'11h30 viennent de sonner et que tu es de service ce soir. Eh, je me soucie bien de mon service. Ah bon, qu'il compte là-dessus, mon service. Moi, servir un homme qui a tenu la corde. Ah, tu plaisantes, non, ah, c'est providentiel. Il est dit que je devais te retrouver pour ne plus te quitter. Eh, je reste ici. Mais, malheureux, réfléchis, tu n'es pas ivre. Heureusement, car si je l'étais, je mettrais le feu au Louvre. » Voyons, Hannibal, reprit la mole, sois raisonnable, retourne là-bas. Le service est chose sacrée. Retournes-tu avec moi? Impossible. Penserait-on encore à te tuer? Je ne crois pas, je suis trop peu important pour qu'il y ait contre moi un complot arrêté, une résolution suivie. Dans un moment de caprice, on a voulu me tuer, et c'est tout. Les princes étaient en gaieté ce soir-là. Mais que fais-tu alors? Moi, rien, gère, je me promène. Eh bien, je me promènerai comme toi, gérerai avec toi. C'est un charmant état. Puis, si l'on t'attaque, nous serons deux, et nous leur donnerons du fil à retordre. Ah, qu'il y vienne ton insecte de duc, que je le cloue comme un papillon sur la muraille. Mais demande-lui un congé au moins. Oui, définitif. Et préviens-le que tu le quittes en ce cas. Rien de plus juste, j'y consens, je vais lui écrire. Lui écrire, c'est bien leste, Coconas, un prince de sang. Oui, du sang de mon ami. Prends garde, s'écria Coconas en roulant ses gros yeux tragiques. Prends garde que je m'amuse aux choses de l'étiquette. Coconas prit donc la plume, sans plus longue opposition de son ami, et tout couramment composa le morceau d'éloquence que l'on va lire. Monsieur, il n'est pas que votre Altesse, versée dans les auteurs de l'Antiquité comme elle l'est, ne connaisse l'histoire touchante d'Oreste et de Pylade, qui étaient deux héros fameux par leur malheur et par leur amitié. Mon ami La Mole n'est pas moins malheureux qu'Oreste, et moi, je ne suis pas moins tendre que Pylade. Il y a en ce moment-ci de grandes occupations qui réclament mon aide, il est donc impossible que je me sépare de lui. Ce qui fait que, sauf l'approbation de votre Altesse, je prends un petit congé, déterminé que je suis de m'attacher à sa fortune, quelque part qu'elle me conduise. C'est dire à votre Altesse combien est grande la violence qui m'arrache de son service, en raison de quoi je ne désespère pas d'obtenir son pardon, et j'ose continuer à me dire avec respect de votre Altesse royale, Monseigneur, le très humble et très obéissant Annibal, comte de Coconas, ami inséparable de Monsieur de La Mole. Ce chef-d'œuvre terminé, Coconas le lut à haute voix à La Mole, qui haussa les épaules. Eh bien, qu'en dis-tu? Demanda Coconas. Je dis, répondit La Mole, que Monsieur d'Alençon va se moquer de nous. De nous? Conjointement. Cela vaut mieux, ce me semble, que de nous étrangler séparément. Bah, dit La Mole en riant, l'un n'empêchera peut-être point l'autre. Eh bien, tant pis, arrive qu'arrive, j'envoie la lettre demain matin. Nous allons nous coucher en sortant d'ici. Oui, chez maître la Hurière, tu sais, dans cette petite chambre où tu voulais me daguer quand nous n'étions pas encore au reste Pylade. Bien, je ferai porter ma lettre au Louvre par notre hôte. En ce moment, le panneau s'ouvrit. Eh bien, demandèrent ensemble les deux princesses, où sont Oreste et Pylade? Mordi, madame, répondit Coconas, Pylade et Oreste meurent de faim et d'amour. Ce fut effectivement maître la Hurière qui, le lendemain, à 9 heures du matin, porta au Louvre la respectueuse missive de maître Annibal de Coconas.